Chapitre 13. Impassible malgré le tangage du randonneur, de plus en plus violent, Nietzsche baissa les yeux sur la casserole que Bannon venait de lui donner. Soulevant le couvercle, elle huma le plat. « C'est de la soupe de poisson !» annonça Bannon, ravi de jouer les serveurs. Le navire tanguant très violemment, il s'accrocha au chambranle de la porte pour ne pas tomber. « Le cuisinier veut être sûr que tu manges ?»«
Je mangerai. »
Avec ce vent, Nietzsche ne serait pas sorti pour gagner la coquerie. Mais si elle refusait la nourriture, Bannon lui en ferait une maladie et insisterait pendant une éternité.
« Merci.
Je suis de quart, il faut que je retourne à mon poste. »
À l'évidence, le jeune homme n'en avait aucune envie et il espérait que Nietzsche l'inviterait à rester un moment.
« Oui, il le faut, tu as raison. »
Nietzsche saisit la casserole d'où montaient des odeurs pas vraiment appétissantes. Dès que le jeune homme eut un peu reculé, elle lui ferma la porte au nez. Sa minuscule cabine était équipée d'une table de toilette, d'une étagère range-tout, d'un tout petit hublot et d'une étroite couchette en bois. Une lampe à huile y diffusait une chiche lumière vacillante. Nietzsche s'assit sur la couchette et utilisa une cuillère en bois fendue pour remuer l'étrange soupe additionnée de lait. Des morceaux de poisson, des herbes aromatiques, quelques tubercules et des oignons y flottaient pathétiquement. Au goût, ça se révéla encore plus bizarre. Quand elle était au service de Jagang, Nietzsche avait sillonné l'ancien monde. Contrainte de goûter de très étranges cuisines, elle avait dû supporter des saveurs qu'il fallait crever de faim pour accepter. La soupe entrait dans cette catégorie, peut-être parce que le lait avait caillé en cuisant. Mais la magicienne avait besoin de se nourrir. Un repas restait un repas, point final. Brutalisé par les vagues, le randonneur grinça comme s'il allait se désintégrer. Quand elle eut terminé son dîner, Nietzsche éteignit la lampe, puis s'allongea, seul dans l'obscurité, avec les bruits inquiétants de la tempête. Bientôt, son ventre gargouilla presque aussi fort que le bateau craquait. Enveloppée dans sa couverture, la magicienne grelottait. Puis sa tête lui fit mal et les tremblements se transformèrent en spasmes. Très vite, elle comprit que la soupe était empoisonnée. Pas simplement avariée. On y avait ajouté une substance toxique. Elle aurait dû s'en douter et se montrer plus méfiante. Combien de fois avait-on tenté de l'empoisonner? Mais pourquoi Bannon aurait-il voulu sa mort? Non, ça n'avait pas de sens. Ce jeune homme simple et droit n'était pas un traître. Bien sûr, elle ne s'était pas posé de questions parce que c'était lui qui lui avait apporté la soupe. Mais quelqu'un avait pu le tromper. Nietzsche se roula en boule, haletante, pour essayer d'éteindre le feu qui lui déchirait les entrailles. Lustrée de sueur, ses spasmes devenus des convulsions, elle aurait juré qu'une pointe barbelée lui déchiquetait l'estomac de l'intérieur, le réduisant en bouillie comme les pauvres restes du pêcheur de perles. La vision brouillée, presque incapable de penser, elle glissa de sa couchette et se releva sur des jambes flageolantes. Ses genoux jouèrent des castagnettes, mais elle se retint aux planches disjointes de la cloison. La tête tournant follement, elle vomit comme si une main invisible lui enfonçait les doigts dans la gorge. Appuyée à la cloison, Nietzsche se sentait si instable qu'elle n'avait même plus conscience du roulis. Sa vision se brouilla, mais comme il faisait très noir, ça ne changea pas grand-chose. Les muscles en coton, elle avait besoin d'aide. Nathan! Personne d'autre ne pourrait la secourir. Lui, il la purgerait du poison et réparerait les dégâts. Mais où était la porte? Autour d'elle, la cabine tournait. Elle vomit de nouveau sur le plancher, mais le poison était déjà passé dans son sang. Sa magie pouvait-elle l'aider à reprendre assez de force pour sortir de ce piège? Elle essaya sans obtenir de résultat. L'esprit confus, elle était incapable de se concentrer. Elle devait sortir sur le pont où l'air frais la ravigoterait. En tâtonnant, elle chercha la porte. Comment pouvait-on se perdre dans un espace minuscule? Sentant sous ses doigts la petite étagère, Nietzsche s'y accrocha. Pas conçue pour supporter pareil poids, l'étagère se détacha de la cloison et la jeune femme s'écroula, glissant dans la flaque de vomi. Elle rampa jusqu'à la couchette et parvint à se relever. Puis elle recommença à longer la cloison, un petit pas après l'autre. Le roulis la déstabilisant, elle lutta, sûre de ne pas être loin de la porte. Pas loin du tout même. Quand le battant s'ouvrit pour laisser passer trois hommes, la magicienne recula. Bannon était de quart, Nathan se terrait dans sa cabine et les marins sortaient le moins possible de leur quartier. Bref, inutile d'appeler au secours. Les trois pêcheurs de perles firent face à leur proie. Rome tenait une lampe réglée sur le minimum, sans doute pour leur permettre d'y voir dans les coursives. Sous le pantalon serré de Sol, Nietzsche, dans le brouillard, vit que son sexe tendait le tissu comme une sorte de harpon. Elle recula d'un pas titubant comme une ivrogne. Devant sa faiblesse, Sol éclata de rire et ses deux complices l'imitèrent. « Notre magicienne est mal foutue, on dirait !» ricana Elgin. « D'un autre côté, elle est plutôt bien foutue !» dit Sol. « Et je vais en profiter dans une minute !» Ses complices sur les talons, il avança dans la cabine. « T'es trop malade pour utiliser ta magie, sale garce. Et quand nous en aurons fini avec toi, tu seras trop épuisé pour bouger. »«
Dehors !»
parvint à souffler Nietzsche.
« Dernier avertissement. »«
Je passe en premier !» dit Sol. « Les deux autres n'auront qu'à attendre leur tour. »
D'un geste nonchalant, il poussa Nietzsche sur la couchette. Puis il se campa au-dessus d'elle, lui plaqua les épaules contre le bois et lui tripota les seins. Elle tenta de le forcer à éloigner ses mains, cherchant à les griffer. Même affaiblie et incapable d'invoquer sa magie, elle restait une tigresse et ses ongles creusèrent des sillons sur le dos des mains et les avant-bras du pêcheur. Quand Sol la gifla, sa tête percuta durement la couchette. Nietzsche fut sonné, mais les coups au fond lui faisaient bien moins mal que le poison. Sol réussit à baisser le devant de la robe pour exposer sa poitrine.
« La lampe, Rome ! Je veux voir ses nichons !»
Les trois hommes eurent un rire gras.
« Des tétons roses, j'en étais sûr !» s'écria Sol. « Quel plaisir de les voir enfin après des jours à en rêver !»
Refermant une main sur le sein gauche de sa proie, le violeur l'écrasa entre ses doigts. Nietzsche se retira au plus profond d'elle-même pour épuiser de la force. Ce n'était pas son premier viol. Il y avait eu Jagang, bien sûr, puis ses soldats quand il la punissait en la forçant à servir sous les tentes. L'empereur avait brisé sa volonté, mais ces trois salauds-là ne savaient pas marcher dans les rêves. Ils n'étaient que des chiens, pas des empereurs. La rage fit bouillir le sang de Nietzsche. Quelle que soit sa nature, le poison n'était qu'une substance chimique, et sa magie valait beaucoup mieux que ça. Même revenue à la lumière, elle restait une sœur de l'obscurité, détentrice des pouvoirs volés à tous les sorciers qu'elle avait tués. Une boule de feu de sorcier aurait carbonisé ses trois agresseurs, en flanquant le feu au navire. Non, elle devait se battre d'une autre façon. Plus directement, intimement presque. Sol ouvrit son pantalon et exposa sa virilité.
« Après tes vantardises, » souffla Nietzsche, « je m'attendais à mieux. »
Elgin et Rome ricanèrent. Sol frappa de nouveau la magicienne, puis lui écarta de force les cuisses. C'était arrivé si souvent par le passé. Impuissante, elle avait dû subir tous les outrages. Mais aujourd'hui, tout avait changé. Même empoisonnée, elle restait plus forte que ses vermines, et meilleure qu'eux. Au bout de ses doigts, elle sentit crépiter des étincelles à peine plus vives que la flamme invoquée par Nathan sur le pont. Mais ça suffirait. Nietzsche posa ses mains brûlantes sur les épaules de Sol, qui beugla de douleur et recula. Encouragée, la magicienne voulut alimenter son sortilège en puissance, mais elle n'y parvint pas.
« Elle a encore de la magie !»
cria Rome. Comme Elgin, il battit en retraite.
« Pas assez forte !»
rugit Sol en avançant de nouveau. En principe, invoquer du feu était un jeu d'enfant. Sauf que Nietzsche avait vu les difficultés de Nathan un peu plus tôt. Certes, mais elle connaissait des sorts encore plus simples. Un point d'air, par exemple. Le coup invisible envoya Sol valser trois pas en arrière. Stupéfait, il en perdit son érection. Ses compagnons restaient excités, ça se voyait sous leurs pantalons, au moins autant par la perspective de se montrer violent que par l'attrait du plaisir physique. Sol parvint à récupérer ses esprits.
« Salope, tu vas voir ce que je vais te faire !»
Ignorant le poison, les vertiges et les nausées, Nietzsche invoqua un nouveau point d'air. Dehors, la tempête se déchaînait contre le randonneur. Avec le bruit du vent et de la pluie, personne ne pouvait entendre ce qui se passait dans la cabine. Sauf si ces types beuglaient assez fort. Nietzsche ouvrit son point d'air, puis le referma sur les testicules de Sol. Comme prévu, le pêcheur de perles cria à s'en casser les cordes vocales. Deux autres points d'air firent subir le même traitement aux bourses d'Elgin et de Rome. Battant des bras, ils hurlèrent aussi.
« Je vous avais prévenu !»
Sans se soucier d'avoir les seins à l'air, Nietzsche se redressa et foudroya les trois types du regard.
« Prévenu, oui. À vous de choisir à présent. Voulez-vous que je vous les arrache ou que je les écrabouille ?»
Rouge de rage, Sol bondit sur la magicienne. Sans se troubler, elle resserra la pression sur ses bourses, puis les tordit allègrement, comme si elle entendait visser le bouchon d'une jarre. Procédant lentement, elle laissa à sa victime tout le temps de sentir la douleur augmenter. Quand ses attributs virils se détachèrent de son corps, Sol poussa un cri qui s'étrangla dans sa gorge. Pas d'humeur à se montrer clémente, une notion qui lui restait largement étrangère. La maîtresse de la mort arracha les testicules des deux autres pêcheurs. Blêmes, ils s'écroulèrent comme des pantins désarticulés.
« Vous auriez préféré que je vous tue, pas vrai ?»
Nietzsche prit le temps de se couvrir la poitrine.
« Si je change d'avis, je peux toujours revenir. »
Bien droite, sur des jambes encore mal assurées, elle accabla les vaincus de son mépris.
« Même empoisonné. » Je suis plus forte que vous. »
Cela dit, elle n'eut jamais le temps de revenir nettoyer ses dégâts, car l'enfer déferla sur le randonneur des vagues.